Bonjour les marques.
Bonjour les smarts.
Bonjour, peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour reviewer le vaisseau amiral de la WWE, Monday Night Raw, qui se passe à Memphis, Tennessee, USA. C'est le 1489e du nom. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Au commandaire, Byron, Saxton, Corey Graves et Jimmy Smith. Vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review du vaisseau amiral du 6 décembre 2021, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode du show rouge, laissez-moi vous introduire mon partenaire tag team gériatrique of the day, mon insubmersible, mon inamovible, mon indestructible papy. Salut papy.
Bon, jeune petit enfant, bonjour tonton, comment ça va?
Ça va et toi?
Comme un lundi, hein, on a envie de dire.
Eh oui, comme un lundi rouge, quand même.
Comme un Monday night.
Eh oui, comme un Monday night. Et d'ailleurs, les Monday Night, ils ont trouvé le truc, hein, puisque dorénavant, ils démarrent les shows avec des vidéos récapitulatifs. Comme ça, tu vois, au cas où t'aurais oublié, mon papy, tu vois, au cas où ta mémoire t'aurais fait défaut, et ben la WWE a pensé à ton grand âge, et elle t'envoie d'abord une vidéo des événements de la semaine dernière, et en particulier, bien sûr, ce qui se passe entre Seth Rollins, Kevin Owens, et notre champion à tous, le champion de la WWE, Biggie. Et on se retrouve tout de suite en backstage, où Seth Rollins va nous souhaiter la bienvenue à Monday Night Rollins. Lundi dernier, Owens avait pu intégrer le match de championnat pour Day One. Ce soir, Owens va affronter Big E dans un steel cage match. Ça l'arrange bien, hein, Seth Rollins, hein, parce que du coup, les deux vont pouvoir se taper dessus et se détruire mutuellement. À Day One, comme ça, on aura non seulement une nouvelle année, mais on aura une nouvelle ère qui va commencer avec un nouveau champion lorsqu'il battra Big E et KO pour retrouver sa place, qu'il n'aurait jamais dû perdre de champion de la WWE. Toujours backstage, hein, Big E, lui, il va expliquer qu'il a parcouru les enfers pour gagner son titre et que ce soir, ça ne sera pas différent. Ce soir, il sera enfermé dans la cage et ce soir, il va tabasser Owens, il va le punir. Derrière, eh ben on a le troisième larron de l'affaire, hein, tout ça c'est la rivalité en trio du moment. Kevin Owens qui va s'exprimer, qui va nous expliquer que bah, Big E, lui par contre, il l'insulte, hein, il n'arrête pas de le traiter de menteur, mais en fait c'est Big E qui est menteur, c'est celui qui dit qu'il est le champion de la WWE, c'est son titre. Big E, il le fait que garder que pour lui, ça c'est pas gentil, et donc il reste que 26 jours avant que KO soit proclamé champion et que tout le monde l'acclame. Ce soir, lui aussi va punir Buggy, punir Buggy, et ça, c'est pas un mensonge. Bref, tout le monde, mon papy, tu remarqueras, a décidé de punir tout le monde. Est-ce que toi aussi, vas-tu punir cet opener?
Oh non, je vais pas punir l'opener. C'est, ah. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce petit opener avec les petits enchaînements de micro, là. Pas l'ancienne, où tous les gars qui expliquent un peu leur motivation et pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir, etc. Là, c'est... J'aime bien quand ils le mettent, c'est assez dynamique comme intro, souvent, je trouve. Je préfère ça au résumé, tu vois, pour le coup.
Ils sont chauds tous les trois. Du coup, c'est vrai que en plus là, on a trois mecs au micro quand même qui sont pas mal et ça donne quelque chose. Donc du coup, ce qui est expliqué pendant tout ça va être tout simplement appliqué puisque c'est bien un steel cage match qui va avoir Big E qui affrontait Kevin Owens. Alors le titre n'est pas en jeu, hein. Tout de suite, on vous met tout de suite dans l'ambiance et on va avoir, et ben écoutez, pour un steel cage match, pour un opener de Monday Night Raw, et ben on va avoir tout simplement un match de 20 minutes entre les deux. Et vraiment ça va essayer à peu près de tout faire puisqu'ils vont autant tenter l'affaire du Nearfall que l'affaire de s'échapper de la cage. Alors on essaye de s'échapper par la porte, on essaye de s'échapper en sautant. Bien sûr, on ne pourra pas échapper non plus au fait que Seth Rollins va venir intervenir. Hein. Du coup, d'ailleurs à un moment où les deux vont vouloir tous les deux essayer de sortir par la porte, notre ami Seth Rollins va intervenir pour leur claquer sur le museau. Big E va s'enchaîner et va se prendre une session de notre ami KO, dont la fameuse pop-up power bomb. Il va résister et il va résister tout autant qu'il va non seulement sortir d'un tombé, mais qu'il va aussi après empêcher Owens de s'échapper par le haut de la cage. Là-dessus, notre champion à tous va porter son big ending depuis la seconde corde, et va s'enfuir par la cage malgré la tentative désespérée d'Owens de l'empêcher de faire ça. Non, ne fais pas ça, Biggie. Et bah, c'est trop tard. Biggie est sorti. Biggie remporte le match, mais c'est pas fini parce que après le combat, Seth Rollins, fou furieux, va s'attaquer à Biggie. Il va monter sur le ring pour rouer de coups. Tout le monde, hein, tout le monde va prendre, hein, tout le monde va prendre cher. Tout le monde va prendre sa dose. Owens, Biggie, mais Biggie, et ben, au bout d'un moment, il va reprendre le dessus et il va réussir à surprendre Rollins avec une belly to belly. Il va achever Owens avec un deuxième big ending qui ce soir aura pris bien cher aussi. Et pendant la pause, qui c'est qui vient se joindre à la fête? Et alors là, je suis curieux de savoir quel est l'avis du peuple de Ketchup et celle de Papy, puisque c'est Bobby Lashley qui va venir, le Bobinator qui va venir se joindre à la fête et qui va s'attaquer tout simplement aux trois mecs présents sur le ring. Et il va tabasser, fracasser, démonter, déboîter tout ce monde-là. Fatal 4-way à prévoir, finalement, avec un point d'interrogation, mon cher Papy?
Point d'interrogation, on va le laisser pour l'instant. Mais oui, il y a de quoi se poser la question de voir Lashley débarquer là pendant la pub. Tu reviens de pub et tu vois tout le monde qui est par terre, hein, tu comprends pas trop. Et après, on t'explique en fait c'est Lashley qui a tué tout le monde. Donc,
juste pour te couper, je l'ai pas ressenti comme ça parce que en fait j'ai eu une version, il y avait pas la pub quoi, tu vois, il y avait pas de pause. Ah, donc en fait ça s'est enchaîné. Donc moi j'ai... Ouais, moi, en fait, c'est en relisant les reports que je me suis rendu compte que effectivement, ça avait été balancé pendant la pause. Mais moi, je t'avoue que sur le coup, j'ai pas été impacté par ça, puisque la version de Raw que j'ai regardée a fait que moi, j'ai tout vu. Donc, du coup, chaud patate sur l'arrivée de Bobby.
D'accord, moi, je l'ai pas vu arriver. Donc, du coup, je suis revenu de pub et il y avait tout le monde par terre en train de se lécher les plaies. J'ai dit, qu'est-ce qui lui arrive à Biggie là? Il a un coup de mou, il vient de tuer tout le monde, il est par terre. Et après, seulement, ils nous ont expliqué en faisant un rewind là qu'on a vu que du coup c'était Lashley qui avait pété la gueule de tout le monde. Donc ouais, c'est plutôt intelligent de toute façon cet opener là du segment micro qu'on a évoqué tout à l'heure jusqu'au match, jusqu'au l'intervention de Lashley, c'est tout en continu, c'est tout en sprint. Le match en lui-même a été pareil en format sprint avec un Owens qui a tenté de s'échapper en permanence, ce qui colle bien à son personnage de heel. Il est intelligent en plus parce que c'est parfois le souci avec les matchs en cache, c'est que t'as la porte qui est là, puis les gars escaladent à 2 mètres de la porte. Et tu te dis, mais ils sont débiles, ils ont qu'à ouvrir la porte. Là, systématiquement, quand il a escaladé, c'est parce qu'il est à l'opposé du ring et qu'il pouvait pas atteindre la porte. Et du coup, c'est pour contourner Biggie qui escaladait. Donc, dans ces cas-là, c'est l'escalade, c'est toujours chelou, mais on l'admet. Et puis, la tension de Rollins, le finish de Biggie qui, alors bizarrement en fait, il fait son big ending et il sort par la porte. Je suis étonné qu'il ait pas fait le tomber, mais bon, c'est pour laisser c'est du booking pour que les gars se passent pas trop faibles avant d'arriver au pay-per-view. Mais globalement, pour si on devait résumer, je dirais très grosse entrée en matière et très bonne entrée en matière.
Ouais, je te rejoins, très gros opener quand même quoi. Qualité in-ring, intensité, la présence de Rollins au bord du ring et tout le temps avec cette menace présente permanente, et que je trouve que voilà que Rollins gère à perfection comment il rentre après dans la cage, etc., comment il vient se fracasser, tout ça, enfin j'ai trouvé tout excellent. Et puis moi du coup quand j'ai vu le Bobby débarquer, j'ai fait wow, là du très très lourd quoi, du très 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 lourd quoi. Le Bobby revient dans la title picture et moi je trouve que c'est archi mérité au vu de son année 2021. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une belle surprise et donc à suivre avec intérêt parce que on a encore pas mal de temps. Hein. On parle du Monday Night Raw du 6 décembre, hein, mon bon papy. Day One, c'est encore dans un moment. Hein, donc il va y avoir encore pas mal d'action et pas mal de storyline à mettre en place d'ici là quand même.
Bah oui, c'est Day One, c'est le premier. Donc c'est dans quasiment un mois.
Quasiment. Allez, on continue. On va rejoindre la division féminine et on aura un match simple entre la Queen Zelina et Nikki H. Alors là, écoutez les amis, hein, je vais pas vous faire de mystère. On va aller aussi vite que s'est passé le match puisque le match n'a duré que 2 minutes. Nikki H se prend le finisher tout simplement de la reine Zelina et se fait dégager vite fait, bien fait ou mal fait, c'est comme on veut, papy.
Je sais pas si c'est mal fait ou si c'est juste quelque part, tu vois, tu peux dire que c'est bien fait parce que c'est un truc qui intéresse personne et ça prend peu de temps. Donc quelque ouais. part, c'est bien fait si tu vas dans ce sens-là. Excuse-moi. Moi je suis pas intéressé du tout par ça. D'un autre côté, je suis un partisan de quand même mettre régulièrement les filles en tête pour que d'une part qu'elles puissent aussi progresser elles-mêmes. et d'autre part aussi que le public puisse s'attacher à elle. Et donc, je pense que c'est important, notamment quand tu as des ceintures quelque part, là, tu as les ceintures de Zelina et de Carmella, qu'on les voit quand même régulièrement, surtout sur un road 3 heures. Donc, je vais pas cracher sur la présence des filles, mais là, pour l'instant, la rivalité n'a pas l'intérêt, quoi. On entre dans une petite losing streak, peut-être, pour l'ami Nikki ASH.
Oh ouais, c'est assez possible. Ouais. Bon, de toute façon, c'était un match sans intérêt. On va quitter la division féminine qu'on va retrouver un peu plus tard. Et là, on va rentrer dans du lourd. On va rentrer dans une division qui est chaud patate en ce moment. Du côté de Monday Night Raw, c'est tout simplement la Tag Team Division. Et on est backstage avec les RK Bro. Le duo est présent. Et Riddle va demander où est la veste de Randy Orton, puisqu'il porte une belle veste. Orton n'est pas content, il lui dit que voilà, il va pas commencer à le lancer à nouveau sur ce sujet-là. Kevin Patrick, notre commentateur là, notre journaliste de la WWE arrive et demande un peu leur ressenti sur le tournoi RK Bro, oui, puisque ce soir, il a été annoncé tout simplement qu'on va faire un tournoi RK Bro pour définir les challengers, hein, tout simplement numéro 1 au RK Bro. Et on a nommé ça le RK Bronament. Riddle ensemble semble particulièrement satisfait de ce tournoi RK Bronament. Et Orton, il trouve que l'idée de tournoi et de nom, il était sûr que ça venait de Riddle. Lui, il voulait se concentrer surtout sur la défense de titre. Riddle, il lui explique que lui et Orton, ils vont être les animateurs du tournoi et c'est eux qui feront les interviews, quoi. Orton, pas du tout d'accord. Non, mais ça, c'est pas dans mon contrat, mec. Moi, j'ai jamais accepté ça. Riddle, là-dessus, il lui apporte une veste comme la sienne. Alors, c'est les vestes un peu, pour vous décrire, les amis, peuple de catch-up, si vous suiviez le catch dans les années 80 ou début des années 90, c'était un peu des vestes à la Gene Okerlund, à la Gorilla Monsoon, ou voire à Vince McMahon quand il était commentateur à la table des annonceurs dans les Saturday Night Main Event. Donc, ça nous ramène loin, tout ça. Donc, vous imaginez un peu la tronche de la veste. finalement, Riddle, il insiste, il veut que Orton la porte. Il refuse. Finalement, il va la mettre quand même à contre-cœur, mais il la met et Riddle est ravi. On rentre sur le ring et on commence avec le premier tour du RK Bronament. Et ce premier tour oppose AJ Styles au Street Profits. De l'autre côté, mon bon papy, j'ai perdu, ça me reviendra plus tard, mais j'ai perdu. C'était quoi l'autre match de l'autre côté?
Mysterio contre et Academy, là, le Alpha Academy.
Alpha Academy, exact, qu'on va retrouver un peu plus tard dans la soirée. Là, on va avoir un match qui va durer presque 10 minutes, mais qui va peut-être pas se passer en particulier comme AJ Styles pouvait le souhaiter, puisque malgré toutes les différences qu'il cherche à avoir avec le grand géant nigérian, eh bien, y a un peu de la friture sur la ligne, j'ai envie de dire, sur la ligne AJ Homos. Et les Street Profits vont en profiter. Alors, les Street Profits over à Memphis, là, hein, pas de problème. Alors, eux, avec la foule, là, il n'y avait pas de problème. Donc, ils ont pu envoyer tout ce qu'ils envoient habituellement sur le ring. Et ça fait plaisir, je pense, à peu près à tous les fans de catch de la planète de voir les Street Profits catcher. Mais finalement, il va se passer un petit événement. Parce que, à force de mésentente entre Homos et Edge Styles, bah, les gars, ils vont se retrouver en count-out. Victoire des Street Profits. Et là, Dawkins va se prendre une grosse clothesline par Homos par-dessus la troisième corde. Il termine inconscient aux abords du ring. Il y a une explication qui a lieu entre les vainqueurs. Je vous ai dit des bêtises, je vous ai dit que c'était les Street Profits qui étaient comptés dehors, mais c'est Edge Styles et Homos.
Homos qui est compté dehors.
Ouais. D'ailleurs, toi, tu me rectifies même pas, toi.
Non, mais je suis sur la merde.
Faut me mettre un coup de pied sous la table du studio, quoi. Mais c'est AJ Styles et Homos qu'ont dégagé les Street Profits du ring et qui les empêchent de remonter, quoi. Donc l'arbitre, il a plus qu'à compter jusqu'à 10 pour donner la victoire aux deux ex-champions. À ce moment-là, il y a une explication qui démarre après le match entre AJ Styles et Homos. AJ, il paraît assez frustré, quoi, que Homos finalement suive pas les consignes. Hein. Homos, il l'ignore et il quitte le ring, quoi. Là-dessus, Riddle, il rebondit sur le truc et il démarque direct avec le micro pour demander ce qui se passe entre les deux. AJ Styles dit que c'est rien, c'est un désaccord sans importance, que ça va passer dans une bonne équipe, quelque chose que Riddle peut pas connaître. AJ Styles, en plus, il menace tout simplement, hein, quand même, de coller le micro au fond de la gorge de Riddle et il va quitter le ring passablement énervé, quoi. Hein. Donc, Riddle demande à Orton s'il a quelque chose à ajouter. Absolument rien du tout. Donc, victoire quand même, malgré de la dissension entre AJ Styles et Homos, papy. Ça y est, papy. Le split arrive.
C'est pas les Street Profits qui ont gagné? Tu m'embrouilles. Ben si, c'est les Street Profits qui ont gagné. Tu dis n'importe quoi, là, tonton. Là, t'as tout mélangé. C'est Homos qui est décompté. Donc, c'est les Street Profits qui gagnent.
C'est les Street Profits qui gagnent.
Et c'est eux qui sont qualifiés. Non, mais ouais. Donc, pour revenir sur l'élimination, c'est effectivement, c'est que AJ Styles est sur le point de conclure le match contre un des deux Street Profits, ça doit être Dawkins certainement. Et c'est là que Moose fait son tag, sort l'autre camp du ring, commence à défoncer tout le monde. Pense-toi, t'as le compte de l'arbitre. Et c'est là où j'ai pas trop bien. Non, c'est Montez Ford qui était sur le point de prendre le finish. Et là, t'as un truc chelou parce que t'as Montez Ford qui saute sur Omos à l'extérieur, donc il sort du ring. Omos le rebalance dans le ring et l'arbitre tout du long il rate pas son décompte en fait. Alors que normalement pour moi quand tu ressors du ring tu casses le compte en fait. Non l'arbitre il compte.
Ouais c'est vrai.
Et donc du coup Ford qui est revenu dans le ring balancé par Omos il gagne en fait par le décompte extérieur. Et effectivement distension voilà ils s'éliminent à cause de ça. Omos abandonne AJ Styles. En fait ça ce qui est dommage moi la distension entre deux ça se sentait déjà la semaine dernière un petit peu là ça se confirme. Ce qui est dommage c'est qu'ils aient foiré un peu le décompte en fait. Montez Ford n'aurait jamais dû sauter hors du ring, il est con ce brave Montez. Ou alors il aurait dû être arrêté par Omos ou par AJ Styles plutôt que de se faire choper extérieur quoi. Et du coup c'est un petit peu dommage parce que du coup je me suis dit mais il est vraiment con l'arbitre de compter jusqu'à 10 alors qu'il aurait dû passer son compte. Hormis ça, Omos est en train de petit à petit sortir de sa bulle. Il est de plus en plus dans le ring. Ça sent la petite bataille. Et puis si sa première rivalité en 1 contre 1, c'est contre AJ Styles, ça devrait être pas mal pour lui pour pouvoir apprendre dans le ring.
Ouais, écoute, en tout cas, moi je constate que la Tag Team Division à Monday Night Raw va bien. J'ai trouvé ça super cool là, d'attaquer le show avec l'annonce comme ça d'un tournoi. Des tag teams et tout ça pour définir un number one contender, etc. Moi, je trouve ça parfait. Tu connais mon aversion pour les contenders match, hein, où le champion est dans le ring pour savoir si l'autre va pouvoir avoir le droit à un shot contre lui. Là, on n'est pas dans cette configuration, on est dans une vraie configuration de compétition et je trouve ça super chouette. Que dire sur les Arcabro de plus que ce qu'on dit déjà depuis des semaines, quoi. Pour moi, ça reste tout simplement génialissime. Alors là, le coup des vestes cette semaine, c'était excellent, vraiment. Je sais pas si c'est Riddle qui a eu l'idée ou si ça vient des bookers. Mais j'ai trouvé que c'était cool quoi, de faire un espèce de truc comme ça, vintage. Et vraiment, tout le segment m'a plu et m'a embarqué. Et ça matchait du début à la fin. Allez, on continue le déroulé. Il y aura un petit segment backstage avec Becky Lynch hein, qui vient pour mettre la pression un peu à son adversaire du soir, Liv Morgan. Puisque je ne vous l'avais pas encore dit, mais ça y est, je lâche le morceau. Ce soir, papy, le main event, c'est Liv Morgan face à Becky.
Wouh, la fête!
Et oui, et c'est un rappel historique hein, fait par la WWE, puisque tout simplement, il y a 17 ans, jour pour jour, on fêtait le premier main event de Monday Night Raw pour un Women's Championship, et qui se déroulait entre Trish Stratus et Lita. Et donc, bien sûr, la WWE ne s'est pas privée de nous balancer les vidéos dont elle a le secret pour nous mettre la hype là-dessus. On verra à la suite au main event. En attendant, mon papy, on a un match de catch qui nous attend. On est à Monday Night Raw. On a plein de catch depuis qu'on est arrivé. Et là, cette fois, on a l'Open Challenge du United States Championship. Damien Priest est là. Et Damien Priest est venu apparemment parce qu'il doit s'emmerder un peu. Hein, donc, il vient et il organise un petit Open Challenge. Et qui c'est qui va répondre à cet Open Challenge? C'est Robert Roode. Robert Roode, ouais, tranquille, accompagné de son Ziggy, hein, bien sûr, hein, parce que Ziggy ne le quitte pas. Et Robert Roode, il va faire une belle opposition dans un match de presque 10 minutes, 9 minutes 37 exactement. Et Robert Roode, il va se la donner, quoi. Il va pas se laisser faire par le champion, même si le champion continue à avoir des attitudes un petit peu bizarres. Alors, est-ce qu'ils veulent nous faire passer le fait qu'il est un peu psychopathe par moment, notre ami Priest? Je sais pas quel est exactement le but recherché. En tout cas, ça nous d'un match de catch plutôt sympa avec un vétéran comme Robert Roode qui est toujours solide et qui est bien là pour mettre en avant un plus jeune comme Damien Priest et puis qui est dans la hype de sa vie là en 2021 donc du coup ça permet de nous donner un match assez compétitif mais il va quand même au final ne pas résister à l'arsenal de Damien Priest, notre ami Robert Roode. On avait du mal à croire qu'il allait pouvoir s'en sortir comme ça. Il se fait démonter, il se prend le pin, mais ça va pas se passer comme ça avec le Dolphin, parce que le Dolphin, il reste le Vislard, et il va venir coller un bon super kick après le match. J'ai presque envie de dire que peut-être, papy, le Dolphin va peut-être être le prochain challenger la semaine prochaine pour l'Open Challenge de Damien Priest.
Eh ben, pourquoi pas? Moi, ce qui me fait peur, c'est la semaine d'après, où du coup, on aura un handicap match avec certainement Ziggler et Root contre
Ah
le
oui.
champion. J'en ai trop vu, du coup, je le vois gros comme une maison et c'est dommage parce qu'on a eu un joli match avec le Robert. Je pense qu'on aura un joli match avec le Dauphin, mais par contre, si jamais on se tape un handicap match derrière, eh ben, je ne sais pas ce que je pourrais dire, quand je serais désespéré. Sinon, ouais, joli match. Effectivement, on n'a aucun espoir pour que Root s'impose parce qu'il est plus du tout identifié comme un catcheur solo. Et si jamais dans sa tactique il devait avoir un solo, ce serait plus Ziggler que t'imagines, un ancien champion du monde quand même. Mais l'ex-Bobby, là, le Robert, moi je le trouve toujours très bon. Bah, ça a toujours été un de mes favoris et ça fait toujours plaisir de le voir aussi fringant à son âge et puis te claquer son spinebuster là. Il est toujours de toute beauté.
Ouais, exactement. Toujours de toute beauté, ça c'est clair. Non mais là c'est super. T'as un super worker avec Robert Roode, un Damian Priest qui est quand même qui est dans la vibe depuis le début de l'année. Le titre US est mis en avant comme il faut. Enfin, je veux dire là le comparatif pour le titre intercontinental fait très très mal parce que vraiment le traitement du titre US c'est quand même autre chose à Monday Night Raw que ce qui se passe à SmackDown depuis des semaines et des semaines. Coucou Nakamura! Et donc écoute, moi j'ai trouvé ça très bien comme ça. Allez, on continue, et cette fois on retrouve les femmes, puisqu'on va avoir un match simple dans la rivalité du moment, un petit peu, hein, de Bianca Belair, qu'on sent qu'elle est dans l'antichambre du main event, quoi. Mais que du coup, là, pour l'instant, là, avec le push de Liv Morgan, on fait patienter un peu, et elle se retrouve avec, j'ai presque envie de dire, une rivalité de mid-card, face à Doudrop. Et elles vont avoir un match. Alors, j'ai des timings différents pour ce match, c'est assez bizarre. Mais le constat, par contre, c'est que il va y avoir un vrai combat de catch quand même, quoi, parce que Doudrop va être loin, loin de se laisser faire, puisqu'elle va d'ailleurs choisir la tactique d'attaquer, d'entrer pendant l'entrée de Bianca Belair, et ainsi essayer de prendre le dessus très très vite. Une fois le match démarré, Belair va quand même esquiver un cannonball contre le coin. Elle va soulever Doudrop pour tenter son finisher, mais elle va s'échapper, elle va rouler au bas du ring, ça va un peu se matraquer, ça va repartir, il va y avoir à nouveau une tentative de finisher, et là, Doudrop va quitter le ring, quoi, et l'arbitre va compter jusqu'à 10, à nouveau une victoire par décompte à l'extérieur, ce soir, mon bon papy. Est-ce que c'était parce qu'il fallait pas affaiblir trop Doudrop dans cette rivalité?
Je pense que c'est ça, en fait, pour moi, c'est parce qu'en fait, cette rivalité est pas là de terminer tout de suite. Donc, du coup, il faut occuper encore Bianca et du coup, ralentir son avancée de rivalité. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a peu de doutes sur le fait qu'elle finisse par rouler sur Doudrop. Enfin, je serais très, très étonné que ça finisse autrement. Il y a le moment qu'on attend tous de voir, du moment où elle va réussir à porter son finisher sur Doudrop. J'en ai aucun doute, hein, vu les qualités athlétiques de Bianca. Mais là, il est peut-être un peu trop tôt, sachant que le main event est tout bouché pour l'instant, de la laisser sans programme, parce que si jamais elle se débarrasse de Doudrop, il n'y a plus rien derrière. Et par contre, je suis d'accord avec toi, Doudrop s'est bien bien défendu dans le match. Bah, ça reste une vraie catcheuse. Hein. On a parlé très rapidement tout à l'heure de Zelina et des Carmella et des machins. Doudrop, c'est quand même le level au-dessus. Et puis bah c'est bien aussi pour elle quoi d'avoir du temps d'antenne avec Bianca. C'est voilà, je trouve que c'est il y a plusieurs rivalités féminines, c'est bien qu'elles aient chacune leur temps d'antenne plutôt que de nous faire des matchs à plein là. Et pour le coup, bah ils retardent le feel good moment de Bianca qui défonce ce Doudrop, mais je pense que ça arrivera tôt ou tard.
D'accord. Bon, papy, est-ce que tu es prêt à aller dans le bureau du patron? Parce
Ah
que
et je m'y inquiétais, hein, tu sais, je m'inquiétais depuis le début du show de ne pas le voir, le patron.
c'est quand même le catch est quand même l'un des rares divertissements sportifs où tu peux avoir accès au bureau du patron du plus grand monopole catchesque mondial et le voir en compagnie d'un mec en slip
Voilà.
de 22 ans ou 24 ans, je sais plus. Et depuis la semaine dernière, bah, c'est un peu la bromance de Monday Night Raw entre Vince McMahon et Austin Theory. Au final, hein, Vince, il est pas très satisfait du comportement de son poulain actuellement. Et donc, pour un peu voir un peu ce qu'il a dans le ventre, et bah, il va tout simplement lui donner un match ce soir. Ok, patron, on verra ça tout à l'heure parce que maintenant, c'est l'heure du Miz TV, retour sur le ring. Le Miz est là pour nous expliquer après une belle, belle bronca comme il les aime par le public de Memphis. Il nous explique d'abord que Maryse est tout simplement pas là ce soir parce que elle ne se déplace pas dans des villes comme Memphis, hein, quand même. Hein.
Elle a
Memphis
raison.
sucks. Et l'invité du soir du Miz, ce n'est autre que Edge. Donc là, Géliel et Gaël, dans leur fauteuil, ont fait un bond de 2 mètres. Il arrive sur le ring et le Miz va l'enchaîner hein, direct, hein, en lui expliquant que tout simplement, bah, il est trop vieux, il est trop faible dorénavant. À une époque, peut-être, après leur échange de la semaine dernière, il lui aurait mis un spear. Mais Edge, du coup, il va lui conseiller de pas trop confondre la gentillesse et la faiblesse, quoi. La gentillesse, le Miz, il en veut plus. Il en a pas eu d'ailleurs hein, à ses débuts, lorsque Edge était à son apogée, quoi. Et il a pas vu à l'époque que le Miz avait les épaules pour mener à bien une belle carrière, une grande carrière, là, tellement qu'il est même nommé chez la concurrence. Et que voilà, et que pendant ce temps, le Edge, il était trop occupé à sauver sa place. Mais Edge, il va lui rappeler que c'était pourtant à Memphis, donc voilà, l'occasion de se choper un peu de pop, qu'il l'avait pris à part pour lui dire qu'il avait quelque chose de spécial, mais le Miz l'avait ignoré. Edge, du coup, raconte un peu le même genre d'histoire qui lui arrivait quand il était jeune, au début de sa carrière, que lui, il pensait pas mériter la meilleure place dans le roster. Edge, il explique qu'il voulait affronter toujours les nouveaux talents et qu'il n'était pas du genre à vouloir rabaisser les gens. Enfin bref, c'était un Magic, un perfect Edge. Le Miz, il veut conclure en disant à Edge que bon, lui, depuis, il l'a largement dépassé et que pour régler cette affaire, et bah, tout simplement, il va lui proposer un match à WWE Day One. Edge va accepter et va même proposer, hein, mon papy, de faire le match dès ce soir, hein, pourquoi pas, à vrai dire, allons-y, hein. Mais le Miz, en bon heel qu'il est, va refuser et se donne rendez-vous le 1er janvier pour le WWE Day One. Edge versus Miz, c'est booké, c'est dans la boîte, mon papy.
Dans la boîte, et ben voilà, comme quoi j'ai fait une petite erreur de prévision. J'étais persuadé qu'on aurait un mixte tag team match avec les femmes de ces messieurs, mais a priori ça se réglait entre bonhommes. Du coup, j'espère que c'est pas pour retarder nous faire une rivalité jusque Mania. J'ai des doutes quand même, hein, mais là, du coup, on verra ce que ça donne. Le segment micro était bien sans plus. Je n'ai rien de j'ai pas relevé de phrases vraiment au-delà du normal, on va dire. Bon voilà, ces deux pros, ils vont nous gérer ça aux petits oignons, puis il y aura un match certainement pas dégueu, pas foufou non plus à Day One, et puis ben, on verra ce que ça donnera ensuite.
Moi, ce que je donnerais au crédit de Edge dans cette histoire, c'est que je trouve ça vachement bien. C'est-à-dire, il est parvenu spécifiquement pour le main event, par rapport à la ceinture de champion du monde, etc. Il offre des rivalités un peu intermédiaires, entre guillemets, je dirais, avec Randy Orton, là, avec le Miz. Moi, je pense que ça va donner une très bonne rivalité, parce que là, on a un alignement vraiment super bien respecté, et avec l'un des top heels de la fédération, hein, en l'occurrence le Miz. Et puis avec un Edge qui est adoré par le public, hein, parce que là, vraiment encore, hein, l'accueil dans le Tennessee a été monstrueux. Donc, je pense que ça va être sympa, et puis on va voir un peu comment ça va se développer au fur et à mesure. Je m'inquiète pas, en plus avec, au micro avec le Miz, de un peu comment ça va trash talker d'ici là. Donc écoute, c'était plutôt pas mal comme ça.
Ouais, ça se regarde, mais moi je fais partie des suiveurs qui pensaient que Edge avait profité justement de son retour pour affronter tous les gars qu'il n'a pas pu affronter pendant c'est quoi, c'est 9 ans qu'il a été arrêté? 9, 10 ans?
Ouais, 10 ans, ouais.
10 ans. Donc je me disais, tiens, bah voilà, il y a sur ces 10 ans, t'as quand même pas mal de mecs qui ont éclos, quoi. Même des Zayn, des Owens qui sont là depuis des années maintenant, mais qui sont arrivés pile quand lui est parti. Et je pensais qu'il irait plus dans cette direction-là. Le Miz, bah, il était déjà là quand il est parti. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort non plus. Edge, finalement, il catch encore pas mal, hein, pour un mec qui dit toujours c'est peut-être mon dernier combat. On voit qu'il en a encore largement sous la pédale, donc on va voir.
Ouais, il en a largement sur la pédale, ça, j'ai pas de doute là-dessus, quoi. Allez, on continue, on retrouve le RK Bronament, le premier tour, enfin, en fait, ils sont des demi-finales, quoi. Et les Los Mysterios vont affronter les Alpha Academy. Alors, Riddle et Orton sont toujours présents, hein, avec leur magnifique veste marron-beige, avec le sigle WWE. Les Los Mysterios, avec un Otis toujours un peu extatique et qui est qui je sais même pas comment dire, je suis un peu circonspect, on va dire, avec notre ami Otis. Mais bon, on va avoir un match en fait qui va être extrêmement rapide, qui va être de moins bonne qualité quand même que le premier match du tournoi, et on va avoir une victoire des Mysterios assez facile en 3 minutes, quoi. Et ça va se terminer alors pauvrement à l'image du match avec un petit roll-up de Dominik. Après le combat, Riddle va monter sur le ring pour avoir la réaction des perdants et Otis va lui répondre en lui collant un slam. Voilà, merci Otis, c'était sympa de ta part. Donc voilà, au final, on a une finale pour le RK Bronament qui verra s'affronter Los Mysterios à. Alors du coup, j'ai un trou là. Street Profits ou Edge Homos?
Et profite, finale 100% face.
Street Profits, finale 100% top babyface, effectivement, mon papy. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette finale du coup?
C'est surprenant, 100% face avec un
Ouais,
champion face.
hein? Et ouais, hein?
Donc là, t'as,
Exactement.
pour le coup, je t'avouerais que c'est la surprise. J'ai cru remarquer un truc pendant le match de cette deuxième demi-finale qui était très courte, c'est qu'il semble que Dominik n'est pas sorti du ring, en fait. Il a tout fait le match tout seul. Si je dis pas de bêtises, Ray n'est jamais rentré dans le match, ou alors peut-être que j'ai une connerie. Et donc du coup, c'est Dominik qui qualifie tout seul son équipe en finale plutôt. Est-ce que c'est ça l'histoire qu'on nous raconte? Pourquoi pas? Voilà, donc à voir, mais je suis très étonné par ces positionnements de face un peu partout. Donc j'attends de voir la finale avec impatience et voir si c'est toujours Dominique qui fait tout le boulot.
Ouais, c'est vrai que tu as raison. Le truc étonnant dans cette histoire, c'est qu'on se retrouve avec deux équipes face en finale du RK Bronament et qui vont affronter des champions qui sont eux-mêmes des gentils. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant le choix du booking là. Mais pourquoi pas, après tout, ça peut lancer un truc, ça peut lancer un truc assez sympa. Et puis bah du coup, même si là le match était franchement pas génial, je suis un fan absolu de Ray, mais comme tu l'as dit, il a quasiment pas catché. Bon, du coup, c'était un peu faiblard, mais bon, on peut leur rendre honneur que, voilà, à partir de là, à partir de ça, ils nous créent un petit tournoi, une finale, et puis quelques interrogations, quelques questionnements sur ce qui va se passer dans la Tag Team Division. Donc, moi, je trouve encore une fois que c'est bien joué. Voilà. Allez, on retourne en coulisses une dernière fois dans le bureau du patron, mon papy, avec Théorie, qui est toujours là. Alors, le Vince McMahon, il est au téléphone. Et puis il va annoncer à un Théorie un peu dépité que finalement bah, il n'y aura pas de match ce soir. Il faudra donc qu'il trouve autre chose pour l'impressionner. Et alors là, on va avoir un moment de gênance, un moment un peu malaisant où Théorie va commencer à enlever sa veste et va montrer les muscles un peu, quoi. Donc Vince va l'arrêter quand même hein, assez vite parce que voilà. Et au final, bah, le truc, c'est que Théorie n'aura pas son match, papy.
Il n'aura pas son match, ben non, et c'est parce que Théorie, il est couillon. Il a pas retenu la leçon de la semaine dernière, on lui dit de s'attendre à l'inattendu, on lui annonce un match, et finalement on lui retire le match, et quand on lui demande s'il est surpris, il fait, bah oui, je suis surpris, moi je pensais que j'aurais un match. Donc il retient pas la leçon, et ça énerve un petit peu Vince, qui du coup lui met le défi d'aller l'impressionner autrement. Mais on sent qu'il y a un travail de fait avec lui, ils sont en train de le. T'as l'impression qu'ils essaient. Comme s'ils étaient le préparer finalement devant nos écrans, ce brave Théorie, c'est sympathique sans plus. J'ai l'impression de dire beaucoup sans plus ce soir, enfin ce jour, enfin bref, aujourd'hui. En fait, tu vois, il y a plein de trucs quand tu regardes ce Raw, tu te dis, ah tiens, ça pourrait être pas mal s'ils vont dans cette direction. D'un autre côté, tu te dis, ouais, bah, à mon avis, c'est juste qu'ils savent pas trop où ils vont, donc du coup, ils enchaînent le segment comme ça, puis ils verront ce qui marche. Et donc je pense que ces segments Vince Theory sont purement dans cet esprit de remettre un peu Vince pour un peu de star power dans l'émission et puis bah Theory il est marrant, il est jeune donc on va voir ce que ça donne.
Ouais, on est dans l'expérimentation.
Exactement.
Allez, on revient dans ce qui va être notre avant-dernier match de ce Monday Nitro. Et là, c'est pas un retour, mais quelqu'un qui est en train de revenir petit à petit, c'est notre ami Finn Bálor. L'Irlandais est dans un match simple. Il va affronter un autre revenant un peu, c'est en l'occurrence T-Bar. T-Bar qui est donc dorénavant en solo, et on va avoir un match quand même très rapide, 3 minutes 38. T-Bar va en fait va avoir la première minute de match, et après derrière, ça va être le déroulé de signature move de notre Finn Bálor national qui va casser la gueule à T-Bar. Mais on sent que tout se passe plutôt bien pour Finn Bálor. Il va gagner son match, battre T-Bar, mais il va se faire attaquer à la fin du match. Et par qui, papy? Et bah par Austin Theory, qui finalement apparaîtra et qui va venir faire son finisher et qui va même se permettre ensuite de faire son selfie sur le corps inanimé de Finn Balor. Juste ce qu'il fallait peut-être pour impressionner le patron.
Pour impressionner le patron, pour se lancer une nouvelle petite rivalité dans le main roster pour Theory. Bah ouais, en plus, le Finn, il a pas grand-chose à foutre, donc on lui a filé un tibar là pour l'occuper quelques minutes dans sa soirée. Et puis bah, je pense qu'il va avoir un plus gros morceau avec Theory.
Ouais. Et enfin, on aura une dernière petite explication, entre guillemets, intervention avant le main event, puisqu'il y aura MVP qui sera là hein, pour expliquer que l'intervention de Bobby Lashley en début de show, c'est pas acceptable pour le Hurt Business, quoi. Parce que la WWE a osé organiser un match de championnat sans Bobby Lashley. Donc, MVP se décide à rectifier les choses. Et donc, il va aller faire la même avec le patron. faites la même chose avec votre patron. Allez le voir, vous aurez votre augmentation. Vous verrez, ça sera sympa. Mais en l'occurrence, ça, c'est pas une augmentation qu'il veut le Bobby Lashley. On sent bien que c'est un match de championnat. Alors, est-ce qu'il va réussir à obtenir un match de championnat peut-être avant Day One? Ou est-ce qu'il va tout simplement vouloir s'intégrer au Fatal Four Way, papy?
Ouais, je pense que pour une affiche monstrueuse à Day One, il faudrait qu'il soit dans le Fatal Four Way.
Ouais.
En plus, Bobby Lashley a une forme de star power que n'ont pas finalement les trois autres. Alors, Rollins, si, quand même. Rollins, c'est un peu, est vraiment au-dessus de l'eau, mais Biggie et Owens, c'est des bons workers, mais je suis pas sûr qu'ils apportent un star power monstrueux, on va dire, dans le monde élargi du suiveur de catch, en fait. Tandis que, à Bobby Lashley, c'est de la grosse bestiole, là, je pense que directement, tu t'accroches l'œil avec un mec comme ça, quoi. Et je pense que ça serait bien. J'ai l'impression que ce Day One, ils ont envie de mettre une affiche monstrueuse. Quand tu vois ce qui se passe à SmackDown, par exemple. Et donc, du coup, je pense que Lashley, il serait très bien dans un Fatal Four Way.
Ouais, je te rejoins aussi. Moi, de toute façon, en plus, j'aime bien les matchs à stipulation à plusieurs comme ça. Donc, effectivement, je préférais voir Bobby Lashley se retrouver dans un Fatal Four Way que choper le titre ou pas d'ailleurs durant ce mois de décembre. J'aurais du mal à les imaginer booker un titre comme un truc individuel, un contre un pour Biggie d'ici Day One. Donc effectivement, je pense pas que ça va être la solution adoptée. Allez, on arrive à la fin de notre Monday Night Raw et on arrive tout simplement au main event pour le Raw Women's Championship. Becky Lynch affronte Liv Morgan. Alors ça a été teasé hein, déjà depuis un long moment. Ça a été teasé sur tous les réseaux par la WWE tout au long de la semaine. Pendant le match, on aura eu tout. Comme je vous l'ai dit, le récap sur les 17 années avec le main event entre Trish Stratus et Lita. Cette fois, ça y est, c'est parti. Elles vont s'envoyer. Et alors là, il va se passer un truc un peu étrange. C'est que, à la différence de certains matchs, je pense en particulier au match des Mystérieux, ou au match tout simplement où il y avait avec Damien Priest, il va y avoir un espèce de truc un peu bizarre, puisque la foule va être étrangement éteinte. Déjà, moi, le premier constat que je fais à ringside, c'est que tout le monde est assis. Souvent, on est habitué, les shows de la WWE ou de la All Elite Wrestling, enfin dans le monde du catch en général, côté hardcam avec le public, etc., c'est debout, il y a de la pancarte, il y a des choses comme ça. Là, il y a quasiment rien, il doit y avoir un ou deux signes à tout casser dans le public et tout le monde est assis. Bon, bref, le match se lance, les deux nanas tentent un peu de soulever la foule, mais on sent que c'est vraiment compliqué, quoi. On sent que ça vient pas et on sent que les chants viennent plutôt d'assez loin. Liv Morgan va avoir une bonne période de domination, Becky reste quand même dans son personnage de heel, hein, papy, on en parlera, hein, mais malgré tout, elle utilise tout un tas d'artifices de heel hein, dans son catch et elle s'en prive pas. Liv Morgan va avoir plusieurs near falls consécutifs qui vont, et à chaque fois, la Becky va s'en sortir. Tentative de soumission des deux côtés également, à chaque fois, ça s'équilibre. On va aller au bout du bout comme ça dans un match de 15 minutes qui va manquer souvent de rythme parce que par moment elles vont tenter des sessions de strike où on attend que le public soit ouh ouais ouh, et puis bah en fait ça va jamais arriver. Il va y avoir le public apparemment on avait soit rien à foutre soit il y avait d'autres raisons, mais un calme absolument incroyable dans ce stade, dans cette aréna de Memphis. Et au bout de ces 15 minutes, Becky Lynch va réussir à faire quoi? Eh ben, va réussir à coller un roll-up en s'appuyant sur les cordes, en trichant comme il faut. 1, 2, 3, victoire de Becky Lynch. Le show va se terminer sur la célébration de l'Irlandaise. Basta, Terminado, Monday Night Raw se termine ainsi, mon papy. Victoire de Becky Lynch. Tout reste... les lignes ne bougent pas sur ce coup-là.
Ouais, ça bouge pas. Moi, franchement, ça n'a pas choqué plus que ça, le public. Je n'ai pas forcément remarqué. Je me suis rendu compte qu'effectivement, ils avaient du mal à embarquer la foule, mais je me suis juste que c'est parce qu'ils s'en foutent un peu de ce main event féminin. Avant le main event, ils ont fait une petite vidéo récap de la carrière, tout ça, de Liv Morgan pour essayer de nous la booster un petit peu. Clairement, c'était orienté comme si c'était un événement, ce match-là. C'était un événement d'ailleurs, c'était pas un match pour le titre féminin. Excusez-moi, c'est pas très respectueux ce que je viens de dire. Mais comment dire, j'ai l'impression que Liv, après c'est mon point de vue, c'est qu'elle est pas encore prête pour le main event. Donc du coup, c'est compliqué après 3 heures de show d'intéresser le public à son histoire. Par moment, le public s'est un petit peu enflammé, mais sans plus. Comme tu le dis, Becky, elle fait des mouvements de heel, mais de toute façon, elle est heel depuis son retour. Hein. Becky, t'entends, on dit qu'elle est tweener, mais pour moi, elle est pas du tout tweener, elle est juste heel. Sauf que, t'es une partie publique qui est toujours accrochée à ses basques. Et donc, du coup, elle a beau faire les pires pourritures, elle est comme suivie par une partie du public. Quoi. Elle fait jamais de trucs de face, hein. Becky, elle fuit le combat, elle triche. Elle fait jamais rien de face, elle est uniquement heel. Hein. Mais voilà, et donc, du coup, je pense que ça, fait que ce match-là a pas vraiment décollé. En plus, dans le ring, il y a quelques petites approximations. Hein. C'est pas tout propre. Hein. Tu sens aussi que... Et des deux côtés, d'ailleurs, hein, parce que je pense que Becky, du coup, a pas forcément les bons repères face à elle, face à Liv Morgan. Donc voilà, donc c'est ça. C'est beaucoup de petits détails qui font que c'est un main event potable, mais pas du tout un truc révolutionnaire qu'on pourrait se dire « Ah, c'était les 15 ans, c'est ça, du main event féminin. » Ouais. Donc du coup, on a un match de la même hauteur. Alors, je me souviens plus du tout de ce match-là, mais celui-ci, en tout cas, il restera pas dans les mémoires. Hormis si c'est le début d'une grande histoire pour Liv Morgan, j'ai un doute aussi là-dessus. Pour moi, elle est pas encore prête pour le main event. Mais bon, ça lui laisse une porte de sortie pour se représenter en tant que challengeuse, vu qu'elle a perdu avec la triche de Becky Lynch. D'ailleurs, je l'ai vu. Moi qui ne suis jamais sur les réseaux sociaux, j'ai quand même vu qu'il y avait une question de l'ami Adam Pearce qui fout jamais rien, qui posait la question de savoir si Liv devait avoir une nouvelle chance. Donc quelque part, je pense qu'ils nous ont laissé la porte ouverte pour ça. Mais voilà. Donc d'un autre côté, encore une fois, si tu donnes jamais le main event aux filles, si tu donnes jamais l'opportunité à des nouvelles têtes de se montrer, tu n'arriveras jamais à les faire progresser. Donc quelque part, ça me choque pas du tout ce positionnement main event. On l'a discuté sur le Discord. C'était la ceinture suprême féminine, c'est normal qu'elle ait une belle place. Après voilà, ça va aussi montrer les limites et en popularité et en catch de Liv Morgan.
Voilà Liv Morgan, écoutez, c'était l'analyse de catch-up. On va vous laisser là-dessus.
Ouais, t'es gentil,
ouais.
Non ?
Ah ouais, non, ça va. Ouais, écoute, moi j'ai trouvé que c'était un match plutôt d'une bonne qualité, mais je te rejoins sur le fait que c'était pas quelque chose d'historique, quoi. Ça restera pas, on se dira pas, ah, tu te rappelles le Becky Lynch versus Liv Morgan en 2021, mais alors, quel truc incroyable. Non, c'était un match de bonne facture, j'ai trouvé, mais c'était pas un truc de fou. Je suis d'accord aussi avec toi sur le côté green de Liv Morgan. Pour moi, Liv Morgan, elle est deux tons en dessous de Bianca Belair, quoi. C'est-à-dire que t'as Bianca Belair dans la mid-card du show, là, et tu dis, ouais, la vraie boss, elle est dans la mid-card aujourd'hui, là. Elle est pas dans le main event. Tu sens que Liv Morgan, il y a encore du taf, quoi. Elle est en train d'asseoir sa popularité petit à petit. Pareil, c'est comme un peu une Alexa Bliss, elle aussi, elle gère bien les réseaux sociaux et tout ça. Donc, je pense qu'elle est en train de s'installer. Elle a 27 ans, je crois. Elle est en train de s'installer. Donc, moi, je peux que l'encourager. Après, concernant le public, quand même, il y a eu plein de reports, hein, après, dans les médias américains, dans les milieux autorisés qui s'autorisent à penser. Fightful Wrestling, des choses comme ça, PW Stream et compagnie. Et il y a Bully Ray qui avait témoigné en expliquant que le problème de la WWE actuellement, c'est que la sécurité dans les arénas faisait asseoir les gens ringside. Et que, d'après Bully Ray, ça casse l'ambiance, quoi. Ça casse l'ambiance. Je sais pas si c'est pour des raisons sanitaires, pour quelle est la raison, mais en l'occurrence, concernant Bully Ray, il trouve que c'est une énorme connerie parce qu'il l'a dit dans des termes pas très sympathiques, à vrai dire. Et Et parce qu'apparemment, il était. Je sais pas s'il était présent ou. Je vous en dirai plus à la prochaine émission. Il faudra que je relise l'article. J'avais lu quelques trucs comme ça. Mais c'est pas la première fois, de toute façon, que je le remarque, ça. Qu'effectivement, souvent, le public à la WWE, dorénavant, Ringside, est souvent assis. Et c'est vrai que ça, c'est assez surprenant. Enfin bon, c'est comme ça. Mais je suis globalement assez d'accord avec toi sur l'analyse de ce main event. Je salue quand même voilà, la performance des deux femmes. Becky reste championne là-dessus. J'avais non plus aucune surprise ou aucune attente sur Liv Morgan là-dessus. Je vois pas comment Becky peut se faire déposséder jusqu'à présent. Donc écoute, c'était assez logique tout ça. Allez,
Ouais, mais juste pour
vas-y,
répondre,
dis-moi, vas-y.
effectivement, alors je sais pas non plus la raison, peut-être c'est effectivement pour des trucs sanitaires, j'en sais rien. Après, que ça facilite pas le boulot, je veux bien l'entendre. Par contre, on a déjà vu des matchs avec de grosses ambiances hein, depuis le retour du public, donc je
Oui, ah
pense
oui,
pas que ce
clairement.
soit que ça l'empêche en fait. Je pense que ça l'empêche si déjà à la base le spectacle n'est pas à la hauteur en fait. Donc c'est sûr que ça les aide pas les filles, mais en même temps ça leur donne encore plus de challenge à y arriver.
Eh ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr, hein, c'est une occasion de montrer qu'on est quand même capable de soulever la foule, malgré les décisions prises, on va dire, par les staffs techniques et de sécurité des salles, quoi. Donc, parce que je pense pas que ça soit systématique dans toutes les salles WWE. Il y a peut-être certaines salles où, effectivement, il y a certaines contraintes. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, quoi. Bon, écoutez, on n'en saura pas plus pour l'instant. En attendant, ce qu'on va savoir tout de suite, ce qu'on va connaître tout de suite, c'est le top flop note de notre ami Papy.
Merde, c'est déjà ça.
Eh ouais.
Et oui, on avance vite. Alors le top, je vais le donner à toute l'histoire sur le haut de la carte masculin. Et donc bah, ça a duré une demi-heure, la première grosse demi-heure, qui a duré le segment d'intro, le match, le post-match avec l'intervention de Lashley, tout ça. Ils ont fait une entrée au sprint qu'ils font de temps en temps et que moi j'apprécie bien, bien, bien. Et j'ai trouvé que c'était top top, ça te donnait envie de voir la suite pour cette rivalité dans le haut de la carte d'Euro. Comme je le disais, il n'y a pas forcément des grosses têtes d'affiche identifiées là-dessus. Tu vois, il n'y a pas de Roman Reigns ou un truc comme ça. Mais par contre, là, tu as quand même quatre gars qui ont envie de se foutre sur la gueule et tu as envie de voir la suite, quoi. Donc top à ça. Mon flop, je vais le donner à Nakamura, qui n'a. Non mais voilà quoi, attends, et tu vois que les filles elles défendent leur ceinture, tout le monde défend sa ceinture, sauf
Oui,
Nakamura quoi.
mais oui, c'est vrai.
Donc voilà, donc j'en profite pour leur donner un parce que j'ai dû rater un ou deux SmackDown ces derniers temps, donc j'ai pas pu lui filer à chaque fois. Donc voilà, donc c'est pour Nakamura. Feignasse de Nakamura, perds ta ceinture, nous te haïssons. Voilà. Et ma note, pop, 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 c'est. Je vais donner classique 3 en fait parce que c'est j'ai toujours un peu le même sentiment que la WWE, c'est le sentiment pépère là, tu vois, c'est-à-dire que ça se regarde bien, j'ai pas envie de zapper, je le regarde parfois plusieurs fois, mais bon, c'est je passe des bons moments, mais en même temps il y a aucun moment où je me dis ah, oh, c'est ouf ce qu'ils font là, c'est extraordinaire, ils ont lancé une histoire super, oh là, t'as vu ce nouveau gars là, il a l'air là, c'est vraiment plan plan, je comprends pas pourquoi ils veulent pas lancer un gros truc quoi. T'entends, t'as des petits sprints, mais t'as pas un rythme effréné dans l'émission, t'as toujours l'impression qu'ils attendent. Alors, je sais pas ce qu'ils attendent, mais voilà, t'entends, tu regardes des vieux Raw ou des vieux SmackDown ou des vieux pay-per-view, puis tu te dis, t'avais des histoires de folie avec des mecs qui venaient de partout, des guests, des authorities, des guerres, des clans, des machins, et puis là, t'as juste à chaque fois des petites histoires qui se répètent semaine après semaine. Donc, c'est plaisant, mais ça. Ça décolle pas du niveau moyen plus, on va dire. Donc, du coup, 3.
C'est pas si mal, 3, c'est pas si
Mais
mal,
oui,
c'est
c'est
pas
pas
si
si
mal
mal,
de
mais
notes,
c'est
mais
pas.
ouais.
C'est quoi un 3? C'est un 12 sur 20. Donc, c'est pas non plus la fête du slip, quoi. Tu passes, mais tout pile.
Ouais, voilà, tout à fait. Allez, bon, moi je sur mon top flop note, je vais donner mon top. Je vais donner mon top quand même au match en cage, à l'opener, parce qu'en plus vraiment en plus toute la tout le segment finalement d'ouverture de ce Monday Night Raw que j'ai trouvé sympa et les promos des trois au début, les 20 minutes de match en catch derrière avec Seth Rollins comme un dingue par la suite. Enfin vraiment, j'ai trouvé que tout ça c'était super super emballant. que ça mettait bien dans l'ambiance pour le reste du show, et sachant qu'il y avait le RK Bro Damon, que je savais qu'il y allait avoir le main event pour l'Euro Women's Championship. Donc du coup, ça annonçait une émission plutôt cool, et ça a été une bonne surprise. Donc je vais leur donner mon top, mon flop, voilà, mon flop. J'ai pas envie de taper sur l'ambulance des filles, sur la low card des filles, parce que les pauvres, finalement, Zelina et Nicky H, mais je vais. En fait. Ah, je vais le donner à Nicky H, mon flop. Parce que vraiment, je suis super déçu par Nicky H, là, depuis le passage de super-héros. Elle a eu le titre, quand même, mine de rien, on parle d'un truc, elle a eu le titre il y a 3 mois de ça, quoi. Ou 2 mois de ça, et depuis après, elle a repris une autre ceinture. Donc, dans la même année, elle a été quand même championne individuelle, championne par équipe. Là-dessus, elle perd le titre. Là, elle vivote, elle montre plus rien. J'ai l'impression que tout est à bout de souffle. Elle se fait battre par Queen Zelina en 2 minutes, voilà, en 2-2, c'est le cas de le dire. Enfin, je suis assez déçu pour Nikki, qui est quand même la grande amie de notre patron. Et donc ça fait du mal à mon petit cœur quand même que Nicky H se retrouve dans cette situation-là. Donc je vais lui mettre un flop, mais pas un flop finalement porté trop contre elle, mais peut-être pour le booking. Et puis je sais pas quoi. C'est comme ça. Allez, pour Nicky H. Et puis bah ma note, papy, bah je vais te rejoindre. On va être une tag team équilibrée parce que moi aussi je vais mettre un 3. C'était cool. C'était pas fou. C'était pas génialissime. Il y avait des trucs un peu bancals. On l'a dit aussi. Il y avait quand même le finish aussi. Ouais, du cage match, c'est quand même le petit truc quoi. Je suis désolé. Quand Biggie il met son big ending, normalement il peut gagner le match sur le compte de 3, quoi. Pourquoi sortir de la cage? Je te rejoins là-dessus, quoi. Ça, c'est. On se demande à quoi ça sert, ça. On se dit, bah non, bah le mec, ça y est, il a réussi à aller au bout, il a fracassé le gars, il lui a collé son finisher, bah il a plus qu'à faire le tomber, et puis c'est marre. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant de voir le mec finalement prendre la porte et se barrer comme ça. Bon, je sais pas, c'est un peu spé. Alors après, je pense que c'est lié à l'overbooking qui suit, parce qu'on sait que Seth Rollins va attaquer, etc. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Enfin bon, c'était histoire d'être un peu chafouin sur un Monday Night Raw quand même auquel je mets 3 et dans lequel je me suis fait globalement plaisir. Et ben voilà, mon papy, on est arrivé au bout de cette review de ce Monday Night Raw du 6 décembre 2021 à Memphis, Tennessee, pour écouter tout le contenu que vous propose la Team Catch-Up. Et ben écoutez, mes amis, peuple de Catch-Up, c'est facile. Vous vous rendez d'abord sur la communauté Catch-Up sur Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo de YouTube, sur laquelle vous pouvez vous nous laisser des commentaires. Pour vous abonner et ne manquer aucun épisode, que ce soit sur YouTube d'ailleurs, comme sur les plateformes de podcast, allez vous abonner Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Je crois qu'avec Papy, on vous a mis en ligne une petite review sympatoche d'un certain pay-per-view nommé Wargames, dans lequel aussi on s'est permis un peu à la fin de divaguer et on a lancé un petit Aju 6 catch-up. Alors je tenais à remercier quelques tweetos qui ont commencé à relayer ce hashtag pour faire venir notre ami Christophe Aju à l'antenne de Catch-Up. J'espère que ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd. En attendant, je vais remercier mon tag team partner gériatrique of the day, l'insubmersible Papy. Merci Papy pour toujours ton analyse fine et juste.
Merci tonton pour cette review, cette pub, ce tout que tu es. Et puis oui, je suis avec toi, moi je suis hashtag ajuste à Catch-Up.
Ah, ça fait plaisir. Je pense que toute la team Catch-Up y est, et je pense que vous, peuple de Catch-Up, vous n'hésiterez pas à nous le faire savoir. Voilà, c'est sur ces paroles que se termine cette review de Monday Night Raw. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait les cornes à linge plein la face. Salut mon bon papy.
Salut tonton, salut à tous et à très bientôt Christophe Ajus.
Et salut Pablo Gacha! Le hashtag de la semaine est lancé.
Là, il y a des millions et des millions qui vont nous relayer. Si jamais on le traduit en chinois, là, il y aura même des milliards.
Millions and millions!